Continuer d'entrer dans ce chapitre 15 dans Saint Jean. Donc ce dernier regard qui nous est donné sur le mystère de l'Église par Jésus, tel que Saint Jean nous le donne, j'ai essayé la dernière fois de vous montrer comment nous retrouvions ce que Saint Paul nous dit. Comprenez bien, hein ? C'est le paralyse que nous pouvons faire, nous, après l'évangile de Saint Jean, par rapport à Saint Paul. C'est bien évident que notre Seigneur nous donne ça dans une source directe. Mais c'est quand même important pour nous, parce que ça nous aide à comprendre comment ces trois grandes analogies de l'unité sont reprises ici, dans une perspective un peu différente, puisque à la place de la tête et des membres, c'est le tronc et les branches. Mais c'est la même réalité, hein, c'est la même analogie de l'unité substantielle, parallèlement avec la taille du Père, qui est la taille des pierres, pour former le temple de Dieu. Et le point de vue de l'époux et de l'épouse, demeurez en moi et moi en vous. Donc on voit que ça se lie. Et à ce point de vue-là, c'est très beau. Ces diverses comparaisons sont là sous-jacentes et elles sont reprises d'une manière très intérieure. Ou plus exactement, on retrouve ici une intériorité beaucoup plus grande. Et ce qu'il y a de tout à fait original, c'est le Père. C'est le Père qui est le vigneron. Donc la vigne appartient au Père. L'Église, elle est l'Église du Père. Parce qu'elle est l'Église du Père, elle est l'Église de la fécondité. Et la fécondité, c'est la fécondité de la charité fraternelle. C'est la charité fraternelle qui glorifie le Père. Et qui sauve le monde. C'est la grande fécondité de l'Église. Il ne faut jamais l'oublier. Et c'est peut-être cela qui caractérise cette dernière vision. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans l'amour. On ne peut demeurer que dans l'amour. C'est l'amour qui permet cette pénétration plus profonde. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez en mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure en son amour. Le mystère de l'obéissance qui devient gardien de l'amour. Je vous ai dit cela pour que la joie, la mienne, soit en vous et que votre joie se trouve en plénitude et que votre voix trouve sa plénitude. Demeurer dans l'amour, ce qui implique cet épanouissement dernier de l'amour, cet épanouissement dernier de la joie. Tel est mon commandement à moi, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Personne n'a de plus grand amour que celui qui livre sa vie pour ses amis. Vous êtes, vous, mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus esclave, serviteur, parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son Seigneur. Je vous ai appelé ami, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi pour que vous alliez, vous, et portiez du fruit. Et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est que vous aimiez les uns les autres. Donc on a là vraiment l'ultime commandement qui est fait par Jésus, ce commandement de l'amour, de la charité fraternelle. Et aussi, l'origine de cet amour, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Pour bien nous faire comprendre que cet amour mutuel, fraternel, provient du cœur de Jésus. Et que cet amour qui provient du cœur de Jésus provient du Père. Donc on montre bien le lien profond du mystère de l'Église. Et on nous fait bien comprendre la finalité de l'Église, ce pourquoi l'Église existe. Parce que c'est souvent ce qu'aujourd'hui on se demande. Pourquoi le mystère de l'Église ? Ce serait quand même plus facile hein, si ça n'existait pas. D'une certaine manière, on accepte encore assez facilement le mystère du Christ, mais le mystère de l'Église, c'est très difficile. Parce que c'est un mystère de surabondance. Alors on n'en voit pas la nécessité. Ce n'est pas l'Église qui nous sauve, c'est Jésus qui nous sauve. Alors pourquoi l'Église ? Et le pourquoi de l'Église, il nous est répondu ici, la finalité. C'est pour ça que c'est important. C'est pour que nous soyons source nous-mêmes de charité et d'amour. C'est la charité fraternelle. C'est toujours cette même exigence hein, que nous retrouvons. Le Père ne se contente pas de nous donner son amour, de nous communiquer son amour. Il veut que nous soyons source d'amour pour tous ceux que nous aimons. Il veut que nous ayons cette capacité, cette plénitude d'amour, que nous soyons nous-mêmes source d'amour. C'est l'ultime raison, et c'est la seule raison. C'est la seule raison pour laquelle Marie est présente à la croix. Alors que s'il n'y avait qu'à être sauvée, c'était inutile que Marie soit présente à la croix. Si Marie est présente à la croix, c'est parce qu'elle doit être source de surabondance d'amour. Parce qu'elle doit coopérer avec le Christ. C'est en raison de cette coopération. Donc c'est en raison de cette charité fraternelle où il y a une source de surabondance d'amour. Sorte que ce début du chapitre 15 hein, jusqu'au verset 18 nous donne une vision de l'Église comme je crois n'a jamais existé. Elle est tout à fait unique. C'est là où on découvre vraiment la finalité de l'Église dans cette fécondité. Et dans cette fécondité, dans la charité fraternelle. Et on le comprend pour glorifier le Père et sauver le monde. Jésus veut que l'Église sauve le monde avec lui. De sorte que c'est vrai que nous sommes sauvés par le Christ, mais le Christ veut que ce salut se fasse par l'Église, comme il a voulu que ce salut se fasse par Marie. Par Marie et par l'Église. Alors, ce n'est pas nécessaire, le mystère de l'Église n'est pas nécessaire au niveau de la justice. Ce qu'il faut toujours se rappeler. Il ne faut pas vouloir justifier l'Église par le point de vue de la justice. C'est impossible. Alors on donne des arguments apologétiques qui ne portent pas. Il faut comprendre que le mystère de l'Église est uniquement la surabondance de l'amour. Alors, dans l'ordre de la surabondance de l'amour, c'est le bon plaisir du Père. Et le Père ne nous a pas demandé conseil. Et c'est le bon plaisir du Père. Et le bon plaisir du Père, c'est que, de fait, le salut qui se fait par le Christ se fasse par surabondance par les hommes. Par surabondance par Marie. Tout ce mystère de l'Église se réalise dans la lutte. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. On hérite de la joie du Christ et on hérite de la haine du monde qui était sur lui et qui est sur nous. C'est normal que moi et mon Père. On ne peut pas rejeter Jésus sans rejeter le Père. On ne peut pas haïr Jésus sans haïr le Père. C'est aussi très fort pour nous montrer cette unité profonde. C'est toujours par l'aspect négatif qu'on comprend le mieux l'aspect positif. Il ne faut jamais l'oublier. Et Jésus prend lui-même ce raisonnement négatif pour mieux nous faire comprendre l'aspect positif. Et c'est ce qu'il y a de si fort dans ce passage. Vous voyez, c'est un des passages qui rejoint évidemment tout à fait le chapitre 8. La grande lutte du chapitre 8. Mais ici, c'est pris d'une façon encore plus forte, d'une façon encore plus profonde, parce que c'est dit d'une façon négative. Alors, nous allons continuer après ce regard sur le mystère de l'Église. Nous continuons sur le paraclet. Continuons le lien de Jésus et du paraclet, puisque c'est ça qu'il faut essayer de saisir au point de vue théologique. Saisir comment le mystère du Christ nous aide à entrer dans le mystère de l'autre paraclet, de celui qui doit demeurer toujours. Lorsque viendra le paraclet, que moi je vous enverrai d'auprès du Père. Vous voyez donc la place toujours plus nette de Jésus par rapport à l'envoi du paraclet. Chaque fois, c'est même très mystérieux de voir ça, comme si Jésus ne voulait pas affirmer tout de suite. Mais il affirme progressivement que moi, je vous enverrai d'auprès du Père. L'Esprit de vérité qui provient du Père, c'est lui qui témoignera à mon sujet. Alors je vous ai déjà dit, au point de vue théologique, c'est très très fort ces affirmations que moi je vous enverrai. On ne peut envoyer une personne divine que par le mystère, que si cette personne procède. Et c'est très facile à comprendre ça. On envoie quelqu'un quand on a autorité sur lui. Vous ne pouvez pas dire que vous allez envoyer le père prieur, n'est-ce pas, dans tel endroit. On dira, écoutez, est-ce que c'est vous qui commandez ou pas? Ça, on peut dire en disant, vous voyez, en riant, j'ai tout pouvoir sur lui, alors je vais vous l'envoyer. Non, on ne peut pas dire ça. Je vais demander qu'il vienne auprès de vous. Je ne peux pas envoyer. On ne peut pas envoyer le supérieur. Quand on est l'inférieur, c'est le supérieur qui envoie l'inférieur. Envoyer quelqu'un, ça veut dire qu'exercer l'autorité sur lui. Qui a autorité sur l'Esprit Saint? Celui seul d'où procède l'Esprit Saint. C'est le petit raisonnement des pères de l'Église et qu'a repris saint Thomas. C'est un raisonnement très fort. Parce qu'autrement, vous êtes obligé de dire que Jésus, en tant qu'homme, a un pouvoir sur le paraclet. Ou vous êtes obligé de dire que Jésus, en tant que Dieu, c'est-à-dire en tant qu'il est le Verbe, a un pouvoir sur le paraclet. Or, le paraclet, Esprit de vérité, ne fait qu'un avec le Père et le Fils. S'il ne fait qu'un avec le Père et le Fils, il ne peut être envoyé qu'en raison de la procession. C'est le grand raisonnement de saint Thomas. Je vous dis, à la suite des Pères, ce n'est pas saint Thomas qui l'a inventé. C'est très beau ça. C'est très très beau comme manière de comprendre ce qui nous est montré ici, ce qui était dit déjà avant, puisque le Père envoie le paraclet, et le Fils envoie le paraclet. Et moi, je vous enverrai d'auprès du Père l'Esprit de vérité, qui provient du Père. C'est lui qui témoignera à mon sujet. Il provient du Père et il provient du Fils. Alors, moi, c'est la personne. C'est la personne. Donc c'est le Verbe de Dieu en tant qu'il est le Verbe de Dieu incarné. et moi je vous enverrai d'auprès du Père. » Alors, quand il est auprès du Père, c'est le Fils d'auprès du Père, l'Esprit de vérité, qui provient du Père, c'est lui qui témoigne à mon sujet. Donc je crois qu'on peut dire que cet envoi du Paraclet, c'est bien Jésus dans son sacerdoce. C'est ça qu'il faut essayer de saisir. Et dans la mesure, dans quelle mesure on peut le dire à propos des textes qui sont si forts. Je vous avais dit déjà, le père Feuillet, en commentant ces passages, en pure exégète, conclut que le filioque est directement impliqué dans ces textes. C'est intéressant de comprendre cela, surtout aujourd'hui. Bon, parce que vous savez bien, il y a des querelles là-dessus. Alors c'est intéressant de voir un exégète aussi honnête que le père Feuillet, aussi désireux d'aller plus loin dans le texte de l'Écriture, affirmer cela. Et c'est important aussi de comprendre qu'au point de vue théologique, vous ne pouvez pas comprendre ce texte si vous ne voyez pas que l'Esprit-Saint procède du Fils, du Père et du Fils. C'est ça le filioque. Il procède du Père et du Fils. L'Esprit de vérité qui provient du Père, et c'est lui qui témoignera à mon sujet. Le rôle de l'Esprit Saint, c'est de témoigner du mystère de Jésus. Et vous aussi, vous témoignerez parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Alors, l'Esprit Saint doit témoigner et les apôtres doivent témoigner par l'Esprit Saint. Parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Autrement dit, on est témoin du Christ par l'Esprit Saint. Et dans l'Esprit Saint, c'est dans la mesure où nous recevons l'Esprit du Christ et l'Esprit du Père que nous pouvons devenir des témoins de Jésus. Le témoignage se fait toujours de l'intérieur. On est spectateur, vous savez la fameuse distinction entre être spectateur et être témoin. Petite distinction des modernes qui est très intéressante, c'est Gabriel Marcel qui a mis ça très en lumière. C'est un des aspects de Gabriel Marcel que nous pouvons retenir. Être spectateur, c'est d'être extérieur. On est spectateur, on regarde de l'extérieur. Il n'y a aucun engagement. Tandis que quand on est témoin, on est engagé. On est engagé et on vit une vie semblable avec celui dont on est témoin. Tandis que spectateur, c'est être à l'extérieur. On n'est pas du tout engagé. Oh, j'étais spectateur, j'ai vu ça, j'ai constaté ça. Et pas plus. Tandis que si vous dites que vous êtes témoin, ça prouve que vous adhérez. Ça prouve qu'il y a un lien profond. Et c'est pour ça qu'on ne peut être témoin de Jésus que par l'Esprit Saint. Que par l'Esprit Saint qui nous donne l'Esprit même du Christ. Et vous aussi vous témoignerez parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Vous êtes avec moi depuis le commencement, vous voyez bien, on ne peut témoigner que s'il y a une vie commune. Et cette vie commune, c'est celle qui vient de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui nous permet d'avoir une vie commune avec Jésus. Je vous ai dit cela pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des synagogues, bien plus. Elle vient leur tuera, croira rendre un culte à Dieu. Donc Jésus va montrer que si on est ses témoins, et qu'on vit avec lui depuis le commencement, s'il y a une vie commune avec Jésus, ça doit aller jusqu'à la croix. Et Jésus dit ça juste avant le mystère de la croix. Je vous ai dit cela pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des synagogues, premier aspect. Bien plus, elle vient l'heure où quiconque vous tuera croira rendre un culte à Dieu. C'est pas très drôle, hein, comme vocation, de croire qu'on rend un culte à Dieu si on vous tue. Et c'est là où on voit que la vocation chrétienne implique, par l'Esprit Saint, par le témoignage à Jésus, implique le martyre. Ça ne peut pas être dit autrement et de manière aussi claire. Et ça, c'est le témoignage. C'est en raison du témoignage. On est martyr quand on témoigne du Christ. On ne peut pas être martyr autrement. Si vous dormez quand vous coupe la tête, vous n'êtes pas martyr. Sauf si, de fait, on vous coupe la tête parce qu'on vous a vu rendre témoignage. Alors là, même si vous dormez, vous êtes martyr. Parce que vous avez témoigné avant. Alors si vous avez témoigné avant, il y a un lien qui demeure. Il n'y a pas de raison et on vous exclut à cause de ça. Je vous ai dit cela pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des synagogues, bien plus. Elle vient l'heure où quiconque vous tuera, vous croira rendre un culte à Dieu. Et ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Donc, toujours cette ignorance de Jésus et du Père. Et les deux vont ensemble. Mais je vous ai dit cela pour qu'une fois leur heure venue, vous vous souveniez que moi je vous l'ai dit. Cela, je ne vous l'ai pas dit dès le commencement parce que j'étais avec vous. Alors ça commence à comprendre les confidences. Jésus nous livre un nouveau secret qu'il n'a pas dit au début parce qu'il était là, présent, et qu'il n'avait pas besoin de le dire. Mais il nous le donne parce que nous en avons besoin. Alors il nous livre d'avance, d'une manière prophétique, tout le point de vue des persécutions. Combien le chrétien est lié au martyr. Je vous ai dit cela pour qu'une fois leur heure venue, vous vous souveniez que moi, je vous l'ai dit. Cela, je ne vous l'ai pas dit dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun d'entre vous ne m'interroge. Où t'en vas-tu ? Alors évidemment, voyez bien ici les petites questions qui se posent pour les exégètes. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu t'en vas, comment saurions-nous le chemin ? Donc d'une certaine manière, il a interrogé. Et c'est vrai, quand vous regardez un peu matériellement les textes, vous voyez une certaine opposition, mais comme une redite. Comme une redite. Alors, je crois qu'il faut comprendre cela comme un enseignement dans l'intimité. Vous voyez, ce n'est pas du tout un enseignement ex cathedra. C'est un enseignement dans l'intimité. Du reste, tous les enseignements de Jésus sont dans l'intimité. C'est les apôtres qui commenceront à parler ex cathedra. N'est-ce pas ? C'est Pierre le jour de la Pentecôte. Mais Jésus parle toujours dans l'intimité. Même quand il parle avec beaucoup. Toujours ce caractère très intime. Et c'est ce qui explique, alors voyez, cet approfondissement vers lequel Jésus va de plus en plus. Jésus va vers quelque chose qui nous fait découvrir de plus en plus ce qu'il est. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun d'entre vous ne m'interrogeait où t'en vas-tu ? Mais parce que je vous ai dit cela, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, moi, je dis la vérité. Mieux vaut pour vous que moi, je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Alors là, l'affirmation est la plus forte. Parce que Jésus est seul à l'affirmer. Donc on peut dire que c'est l'ultime affirmation de Jésus par rapport au paraclet. Où il nous montre que lui-même nous l'envoie avec toute son autorité. Et Jésus dit ça pour enlever la tristesse. Jésus ne veut pas que nous soyons orphelins. Alors, c'est le propre de l'orphelin d'être triste. La tristesse provient toujours de l'absence de celui que nous aimons. La tristesse provient toujours d'une séparation. C'est le propre de la tristesse. Hein. Dès qu'il y a une séparation, alors il y a un repli sur soi et on commence à être triste. Et Jésus montre que le paraclet doit être celui qui enlève la tristesse. Mais parce que je vous dis cela, la tristesse a rempli votre cœur. Hein. Quand Jésus dit « Où t'en vas-tu ?» Personne n'a dit ça. Jésus les a regardés. Il y a eu un silence. Et parce que je vous ai dit cela, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, moi, je vous dis la vérité. Mieux vaut pour vous que moi, je m'en aille. Ça, c'est une phrase extrêmement importante que beaucoup de saints ont répétée. Hein. C'est une phrase très belle, parce qu'on dirait presque que ça fait partie de l'économie divine. Ça fait partie de l'exigence de l'économie divine. Ça fait partie de la conduite de Dieu. Mieux vaut pour vous que je m'en aille. À première vue, ça semble complètement contraire à toute espèce d'exigence du cœur. On ne peut pas dire à des amis qu'on aime tendrement « Mieux vaut pour vous que je m'en aille. » C'est impossible, on ne peut pas dire ça. Parce que être séparé de l'ami, c'est la chose la plus terrible. C'est ça qui provoque toutes les tristesses, toutes les angoisses. Et Jésus le dit. Mieux vaut pour vous que je m'en aille. Ça ne veut pas dire du tout que Jésus ne les aime pas et que Jésus n'est pas aimé. Mais Jésus veut faire comprendre un lien plus profond, un lien qui va plus loin, qui va se réaliser grâce au paraclet. Et ceci, c'est très important au point de vue de l'économie divine et de la conduite de Jésus sur nous. Mieux vaut pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le paraclet ne viendra pas vers vous. Ce n'est pas Jésus qui est un obstacle au paraclet, mais c'est le repos des disciples dans le Christ. C'est qu'ils s'appuient trop sur lui. Une façon qui n'est pas assez divine. Il y a encore un amour trop humain. Et ce mode trop soit dépassé. Car si je ne m'en vais pas, le paraclet ne viendra pas vers vous. Et le paraclet ne peut venir que vers les pauvres. C'est le père des pauvres. si un certain contentement, une certaine satisfaction ne parvient pas. Ne peut pas venir dans ceux qui sont satisfaits d'eux-mêmes, dans ceux qui sont contents d'eux-mêmes, dans ceux qui s'appuient sur le Christ en ne regardant que la présence sensible. Car si je ne m'en vais pas, le paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Il faut la séparation du Christ pour que le paraclet vienne. Condition sine qua non. C'est très très important ça dans l'économie divine hein, et dans la conduite de Dieu sur nous. Et ça c'est tout à fait propre à la nouvelle alliance. Ce n'est pas dit de la même manière. On a quelque chose d'analogue, vous savez, entre Élie et Élisée. On voit qu'Élisée, il a beaucoup de peine de comprendre. Hein. Et il court après Élie. Il veut à tout prix qu'Élie demeure. Alors on lui donne son manteau. Élie donne le manteau. C'est un symbolisme de l'esprit. Mais vous voyez, Élie ne dit pas la même chose. Hein. C'est très très fort ces paroles de Jésus. Il est bon pour vous. Mieux vaut pour vous, mieux vaut. C'est quelque chose qui va plus loin que moi, je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Donc Jésus s'en va pour envoyer le paraclet. La promesse de Jésus, liée à son départ, c'est d'envoyer le paraclet. Et depuis que Jésus est monté auprès du Père, depuis que Jésus est auprès du Père, il est là pour nous envoyer le paraclet. Alors, je vous l'enverrai. C'est Jésus qui l'envoie. Alors, est-ce que c'est le sacerdoce de Jésus? Est-ce que c'est l'âme sacerdotale de Jésus? Je crois qu'on doit aller jusque-là. C'est vraiment Jésus dans son sacerdoce qui nous envoie le paraclet. Évidemment, c'est très difficile à expliquer hein, au point de vue théologique. Et je crois que nous devons essayer au point de vue théologique, surtout aujourd'hui, où de nouveau, on a toujours la tentation de séparer le sacerdoce du Christ du don de l'Esprit Saint. Alors, l'Esprit Saint nous est donné comme indépendamment du sacerdoce du Christ. Alors, ce n'est pas du tout comme ça que ça se présente au point de vue économie divine, telle la révélation. C'est que Jésus joue un rôle capital dans le don de l'Esprit Saint. Puisque c'est lui qui nous l'envoie, donc il joue un rôle capital, il est source de cet envoi. Peut-être source instrumentale, mais source de cet envoi. Et le Père veut que ce soit de cette sorte. Je vous l'enverrai. Et une fois venu, celui-là confondra le monde à propos de péché, de justice et de jugement. Là, nous avons ce fameux passage tellement important, où on voit exactement le rôle propre du paraclet de l'Esprit Saint sur nous. Et c'est Jésus qui l'envoie. Nous irons au terme de revenir sur cette explication, parce que c'est quand même, je crois, capital pour nous. Si nous devons creuser toujours plus loin le mystère du sacerdoce de Jésus, c'est sûrement cet aspect-là que nous devons creuser. Les liens entre le sacerdoce du Christ et le don de l'Esprit Saint. Et de comprendre comment le don de l'Esprit Saint nous est fait par le sacerdoce du Christ. Autrement dit, le sacerdoce du Christ, c'est le sacerdoce qui s'achève dans l'Esprit Saint. Le sacerdoce du Christ, c'est le sacerdoce de l'Eucharistie. Et c'est le sacerdoce de l'Esprit Saint. Alors, il faut saisir le lien de nécessité voulu par Dieu, par la sagesse de Dieu, le lien de nécessité par rapport à nous, entre le mystère du Christ et le mystère de l'Esprit Saint. Alors vous voyez qu'ici, on nous présente le rôle propre de l'Esprit Saint, du Paraclet. Donc je reviendrai à le lien entre le sacerdoce du Christ et le Paraclet. Et une fois venu, celui-là confondra le monde à propos de péché. Alors, on reprend. De péché parce qu'il ne croit pas en moi. De justice parce que je m'en vais vers le Père et que vous ne m'apercevrez plus. De jugement, parce que le chef de ce monde est désormais jugé. Alors là, il doit y avoir un grand silence. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Et vous voyez comme c'est important, ces trois aspects du mystère du Paraclet. Alors, vous essayez de comprendre ce passage extrêmement dense. Il vous confondra le monde à propos de péché. Il confondra le monde à propos de péché. De péché parce qu'il ne croit pas en moi. Le grand péché, c'est le manque de foi dans le Christ. C'est le péché majeur. J'allais dire que c'est le péché contre l'Esprit Saint. Vous voyez ? Puisque c'est l'Esprit Saint lui-même qui fait comprendre cela. Et si je pars, je vous l'enverrai, et une fois venu, celui-là confondra le monde à propos de péché. À propos de péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Donc, il confondra le monde à propos de péché. Il fera comprendre au monde que le péché radical, c'est de ne pas accepter le Sauveur. De péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Croire au Christ dans son mystère de Verbe devenu chair et dans son mystère de rédemption. Alors, la foi, comprenons bien, la foi implique aussi cette adhésion pratique, cet engagement. Parce qu'ils ne croient pas en moi, c'est-à-dire ils ne mettent pas en moi toute leur confiance. Ils ne comprennent pas que je suis le Sauveur. Alors à ce moment-là, ils ne croient pas. C'est une adhésion au sens très très fort, une adhésion qui implique le point de vue de l'adhésion du cœur. Alors, évidemment, ne pas croire dans le Christ, c'est nécessairement se mettre en dehors de la source du salut. Et se mettre en dehors de la source du salut, c'est se réfugier en soi-même, c'est qu'on dirait que le salut est en nous et non plus dans le Christ.